Micro, microscopie, suite, suite, microscopie, suite. Édouard Zambo.
On se retrouve dans la seconde partie de ce microscopie intitulé « Cette semaine, demain la retraite ». Ça n'est pas notre cas, nous l'espérons, mais en tout cas nous essayons d'aborder quand même le sujet. Nous sommes toujours en compagnie de Dominique Thierry, vice-président de France Bénévolat. On en parlera dans la deuxième partie de cette émission. Et auteur aux éditions Liaison Sociale de, je cite, « L'entrée dans la retraite, nouveau départ ou mort sociale ». Autant dire que la question est cruciale. Dans cette seconde partie, nous allons essayer de détailler quelques-unes des principales questions qui se posent au moment de partir à la retraite. Et chronologiquement, la première de ces questions, c'est celle de la transmission des savoirs. C'est ce qu'explique Jean-Luc au micro de Céline Develay-Mazurel. Pour lui, bien partir, ça se prépare. Il ne faut pas laisser une page blanche à ses successeurs.
Alors, je suis en retraite le 31 août, ce que je ressens en mois d'août. Donc, avec les congés à prendre avant, je vais finir à peu près fin mai, début juin. J'ai encore pas calculé précisément, mais
c'est très proche. Ah, donc c'est dans pas longtemps, là.
Oui, tout à fait. Moi, je suis très heureux de partir en retraite. Mais j'aimerais partir dans de bonnes conditions. Bon, comme j'ai été, dans le cadre de cette restructuration, un peu créateur de mon service, maintenant, bon, le rendre le plus pérenne possible, quoi.
Quand vous dites partir dans de bonnes conditions, c'est-à-dire...
C'est-à-dire partir avec un travail bien terminé, pas laisser quelque chose en plan. Bien que mes successeurs soient capables de prendre ma place et que moi, mon travail soit bien fini.
Et ça, vous pensez que les entreprises favorisent ce type de transmission au moment de la retraite ?
Disons que les entreprises sont de plus en plus conscientes de ça, je pense. Et... ça devient un besoin, notamment dans le secteur tertiaire, les banques, les assurances, qui sont complètement développées avec ma génération, où les gens maintenant partent d'un seul coup. Bon, c'est vrai que l'industrie ou l'agriculture, la transmission du savoir, ça se fait, ça s'est appris dans les autres générations, alors que nous, le savoir, c'est nous qui l'avons créé dans le tertiaire. Et on ne sait pas le transmettre. Et en plus, c'est pas dans notre caractère. Moi, je pense l'avoir être beaucoup moins touché que certains collègues, mais qui, eux, gardent beaucoup plus pour eux et ont, comment dire, entre guillemets, peur de transmettre. Qu'on leur dise, maintenant que c'est transmis, tu peux partir, tu ne sers plus. Donc, et beaucoup redoutent ça, oui.
Dominique Thierry, on parlait à la fin de la première partie de microscopie de la préparation à la retraite. Vous disiez, en gros, les entreprises ne se donnent pas le mal. Pourtant, là, on a une illustration très concrète de l'intérêt qu'elles auraient à y trouver.
Oui, il y a effectivement la nécessité du boulot bien fini. Et ce qui est plus dramatique, c'est effectivement les gens qui partent brutalement en pré-retraite, dont le poste est supprimé, dont l'unité est supprimée, etc. Donc, ce que j'ai toujours expliqué aux entreprises, ça commence par une destruction identitaire forte, et on leur dit, reconstruisez-vous une identité demain. C'est quand même plus difficile de se reconstruire une identité quand on a d'abord vécu une destruction identitaire. Parce que ça, il n'y a pas besoin d'avoir lu Freud et Lacan dans le texte intégralement pour savoir que c'est fondamental. La transmission, alors la transmission à nos enfants, la transmission à nos collègues, la transmission à des jeunes collègues, tout ça, c'est fondamental de la construction identitaire.
On en parle souvent de cette transmission, notamment quand il s'agit de retarder, entre guillemets, l'âge de départ à la retraite. On se rend compte que c'est quasiment des vœux pieux. Le départ de l'âge à la retraite n'évolue que peu, 58 ans en moyenne en France. On dit, en gros, on va profiter de l'expérience des grands anciens, mais est-ce qu'on a des éléments de comparaison avec d'autres pays qui feraient ça mieux ? Vous allez dire tous.
Oui, on est, alors en termes quantitatifs, alors là, il n'y a pas d'ambiguïté, on est les plus mauvais. C'est-à-dire, cette drogue du départ anticipé, pour des tas de raisons historiques qu'on peut analyser, est vraiment une maladie franco-française, qui a été après une complicité totale, etc. C'était une gestion par les âges, c'est-à-dire que la date de naissance n'est simplement qu'un moyen de gérer des effectifs. Accentué après, mais là on ouvre les grandes par les salaires ancienneté, donc à ce moment-là, si on en fait partir un très payé et pas complètement compétent, on peut en embaucher deux, je caricature un poil, mais à peine deux moins bien payés et plus compétents.
Mais n'y a-t-il qu'une gestion comptable des entreprises, c'est pas une gestion humaine à vous entendre.
Ouais, s'il y avait une vraie gestion des ressources humaines, des compétences, quelque part, on les ferait moins partir moins tôt, parce qu'il y a aussi une perte considérable, ces départs anticipés. Effectivement, on est sur une gestion totalement comptable et d'effectif, et pas de gestion des métiers, des compétences, etc. Et puis, il y aurait meilleure transmission, parce que la formation toutes les enquêtes sur la formation montrent que les gens apprennent pas du tout, essentiellement par des stages. Et ça, c'est secondaire, c'est marginal.
Réfléchir à la retraite, ça veut dire aussi réfléchir à une forme de tutorat, quoi.
Bien sûr, bien sûr. Et ce que tout le monde dit, ce que j'ai appris parce que j'ai eu de bons collègues, j'ai eu des bons chefs, etc.
Cette formation sur le tas, comme on dit.
Oui, oui, oui. Et c'est quand même, y compris tout le monde dit, c'est par là qu'ils ont appris le plus. Ce qui ne veut pas dire que les stages sont inutiles. Enfin, c'est presque secondaire par rapport aux autres modes de transmission des compétences et des connaissances.
Deuxième question, très générale, qui est sortie de ce stage auquel Céline de Velay-Mazurel a assisté, c'est la question du couple. Alors, le couple peut-il survivre à la retraite? En tout cas, faut-il le réorganiser, hein? C'est une question récurrente des participants à ce stage, et particulièrement une question d'hommes, d'ailleurs, hein.
Vivre à deux, lorsqu'on est habitué, on part le matin et là on va se retrouver à se côtoyer pratiquement toute la journée, je pense que c'est quelque chose qui peut être assez difficile à vivre. Mon épouse, elle, sera en retraite que dans 4 ans, donc je risque de me retrouver avec un petit peu d'ordre pour travailler à la maison, quoi.
Donc ça, vous imaginez, vous essayez de vous dire comment vous allez gérer cette situation, ce décalage?
Alors justement, le but du stage ici, c'est elle aussi qui était partante pour ça, pour que j'apprenne justement à gérer ma retraite de façon à bien envisager ce que va être la vie à la maison 24 heures sur 24. Donc, parce qu'elle sait que le jour où je décompresse complètement, quoi. Parce que c'est vrai, lorsqu'on a des journées qui sont fatigantes, lorsque j'arrive à la maison, je me relâche complètement, je fais plus rien, quoi.
Et elle, alors, quand bien même elle travaille, elle fait encore à la maison aussi?
Ah oui, elle fait également le travail à la maison dans ces cas-là, donc c'est elle qui en prend les pots cassés.
Donc elle aimerait bien aussi que peut-être la retraite soit le moment de renégocier ces tâches-là?
Je pense qu'il y aura également des aménagements faits, donc mon épouse prendra peut-être un petit peu moins de travail à faire et elle pourra profiter de son lundi ou de son vendredi, on pourra partir en week-end un petit peu plus sain. Mais ça se fera, je pense, en bonne intelligence, il n'y a pas de problème.
Je connais déjà un petit peu le problème dans la mesure où ma femme est infirmière et travaille déjà un week-end sur trois. Donc je connais, c'est déjà un problème un peu. Et elle est elle-même aussi très consciente. Quand je vais être en retraite un an après moi, et elle me dit déjà qu'elle sait qu'elle sera en garde-temps pour être polie. Hein, mais bon, je pense que je m'adapterai et puis qu'on s'adaptera tous les deux, il n'y a aucune raison.
Oui, parce que vous et votre femme, vous avez toujours travaillé, vous n'êtes jamais passé autant de temps que celui que vous allez passer ensemble au moment de la retraite, c'est vrai ça?
Tout à fait, mais à la limite, ce qui fait même le plus peur, c'est l'année de décalage entre les deux.
C'est-à-dire que vous allez être à la retraite pendant un an plus tôt?
Voilà. Je serai à la maison alors qu'elle, elle serait plus demandeuse que moi de retraite. Et elle va me sentir à la maison et elle continue à partir au travail le matin. Je ne sais pas si on peut bien dire jalousie, c'est pas tout à fait le bon terme, mais ça y ressemble. Et le fait que moi, bon, j'aime pas beaucoup la contrainte, donc il suffit qu'elle me dise de faire quelque chose pour que j'ai envie de faire autre chose. Et bon, il y aura des heures, mais ça sera pas bien méchant.
Est-ce que vous êtes un homme à la maison, en fait?
Disons qu'elle a été 20 ans libérale. Les enfants, je les ai élevés autant qu'elle, presque. Quand elle était avant libérale, j'ai beaucoup élevé mes enfants. Mais oui, j'étais un homme à la maison, mais c'est pas pour ça que ça me plaît beaucoup.
Dominique Thierry, c'est plus l'avis du sociologue que j'ai envie d'entendre. Est-ce que la retraite est statistiquement, j'ai presque envie de vous poser la question, un élément perturbateur, destructeur du couple? On a l'impression que ces hommes, ils s'interrogent pour la première fois sur leur vie de couple.
Oui, c'est très, très. Oui, c'est un révélateur. C'est un révélateur de tas de choses. D'ailleurs, Sempé, qui a beaucoup d'humour, qui a fait des dessins sur ça, il dit avec beaucoup d'humour, ce qui est un peu compliqué, c'est qu'on prend sa retraite au moment où on vieillit. Si on prenait la retraite quand on est jeune, etc., on n'aurait pas à gérer deux questions en même temps. C'est le problème du vieillissement, le problème de la retraite. Parce que c'est aussi ça. Alors, dans l'enquête qu'on a faite, qui a donné lieu à cet ouvrage dont je vous rappelle le titre, il y a deux sujets que volontairement on n'avait pas attaqué frontalement. Quand ça venait, mais on sentait que c'était des sujets tellement lourds, tellement difficiles, c'était la vie de couple et la mort. C'est deux sujets presque tabous qui sont venus pour certains. Quand ils sont venus, on en a causé. Quand ils ne sont pas venus, volontairement, c'est une des règles déontologiques. Mais effectivement, on n'a pas beaucoup de statistiques, mais on dit qu'il y a un accroissement des divorces juste après la retraite. Comme il y a aussi un accroissement de la mortalité. Les psychiatres parlent bien de la maladie de la retraite. Donc il y a bien une pointe de choses très perturbantes. Alors sur le couple, effectivement, on voit bien les deux témoignages sont... On commence à porter jugement de valeur. Il y a quand même un qui me plaît mieux que l'autre, il faut pas être clair. Mais c'est une question qu'il faut se poser tranquillement. On peut parfaitement dire on a eu deux vies parfaitement séparées et on continue à avoir deux vies séparées. Y compris de dire la retraite c'est 24 heures sur 24 chez soi. Mais pas du tout, ça peut être plein d'autres choses. Est-ce qu'à cette occasion-là, on décide d'avoir un projet commun? Est-ce qu'on décide de gavoir de projet individuel? Il n'y a pas de normes, c'est très bien. Bon, et puis il y a d'autres rapports, les rapports aux enfants, les rapports aux petits-enfants qu'on a chance d'en avoir. C'est évidemment pas la même chose pour les gens seuls, ceux qui sont divorcés ou les veuves. Quel rapport on a aussi aux ascendants, puisqu'on est aussi une situation démographique tout à fait exceptionnelle. Où
on peut être à la retraite et avoir toujours ses parents.
Et ben, voir ses grands-parents. Donc on va avoir des périodes où il y aura cinq générations ensemble. Tout ça, c'est tout à fait nouveau par rapport à l'histoire de l'humanité. Et ça va poser des tas de questions qu'on peut traiter de façon très positive et très sympa, ou au contraire, très négative. Mais c'est vrai que ça repose la question du couple, des activités, de l'équilibre. Effectivement, ce que le monsieur se posait, c'est de dire quelque part, s'ils avaient un peu réfléchi à l'équilibre des activités et des tâches avant, ce serait peut-être moins difficile de se poser après. Voilà.
En fil rouge, en filigrane, hein, ce que vous dites, c'est finalement la question fondamentale, c'est quoi faire après la retraite. Et alors là, je vais vous demander d'enfiler votre troisième casquette, celle de vice-président de l'association France Bénévolat, hein, qui essaye justement de favoriser le bénévolat. Alors une fois la retraite, comment s'occuper? On a évidemment l'idée, peut-être une lecture, de dire « je vais aider les autres ». Et Serge Lantôme, là, le formateur, je vous propose d'écouter un témoignage, il les met en garde, les participants. L'engagement associatif, pour lui, ne se décrète pas, et ça n'est pas non plus un pis-aller à l'ennui.
Moi, j'ai eu des gens dans des groupes qui ont dit « ah, mais ça y est, moi j'ai envie, à la retraite, de m'occuper, de faire un truc dans le tiers-monde. » Attention, je veux dire... Quand on est confronté à la souffrance des autres, c'est une vocation. Hein. Déjà, les Restos du Cœur, commencer par aller servir la soupe en plein hiver là, aux clochards, aux gens qui sont dans le besoin, déjà sans faire partie du truc, vous y allez un soir, là, vous vous mettez à côté, vous regardez. Après, vous dites, est-ce que j'ai envie d'être de l'autre côté de la table, aller servir? Même si on a envie d'aider les autres, on ne s'improvise pas dans l'humanitaire. Il faut faire des choses à sa mesure et en fonction de... Il ne faut pas que ça soit une souffrance aussi.
Il y a deux problématiques. Il y a la problématique de l'utilité sociale et il y a aussi la problématique de la peur du vide. Se lever le matin en se demandant ce qu'on va faire de sa journée, c'est angoissant. Donc on est dans un schéma de pensée qui fait que les gens ont besoin d'avoir un objectif, d'avoir un but, de faire des choses. Donc... Le monde associatif est important à ce niveau-là. Et alors, il y a des gens qui sont plutôt militants dans toute leur vie, ils font des choses, ils sont dans des associations. Mais moi, je rencontre beaucoup de gens dans ces formations, des gens qui n'ont jamais approché le monde associatif.
Et qui, tout d'un coup, parce qu'ils vont entrer à la retraite, se disent « bah, tiens, je vais m'occuper ». Voilà,
tout d'un coup, ils se disent « ah ben oui, ben maintenant, je vais pouvoir faire du bénévolat, m'engager dans des associations ». Il faut avoir une vraie vocation, quoi.
Dominique Thierry, est-ce que vous voyez à France Bénévolat, qui est une très grosse association, hein, qui s'occupe justement de gérer les intentions...
De trouver des bénévoles pour les autres associations, et sur un champ très 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 diversifié.
Est-ce que vous voyez un afflux de jeunes retraités?
Non. D'abord, contrairement aux idées toutes faites, il n'y a pas plus de retraités bénévoles que de jeunes bénévoles que d'actifs bénévoles. C'est à peu près équivalent, 25%, toutes catégories d'âge, etc. Bon, donc là, il y a un premier paradoxe, c'est que les retraités, une partie, ceux qui étaient les moins bien dans vos interviews et dans les témoignages, ont un sentiment d'inutilité. C'est ce qu'il vient de dire, le besoin absolu d'utilité. La fin du travail, c'est la fin de la représentation sociale d'utilité. Et en même temps, notre discours est absolument pas normatif, en disant, si vous voulez être utile, il n'y a qu'à. Effectivement. Ce qu'on voit très bien aussi, c'est ceux qu'on en fait un peu avant, s'engagent beaucoup plus facilement, et d'ailleurs gèrent beaucoup mieux cette transition. En jargon sociologique, on dit qu'ils sont polyidentitaires. D'ailleurs, les femmes sont plus polyidentitaires que les hommes.
On s'en est rendu compte dans les questions.
On voit bien. Effectivement, à partir du moment où ils avaient déjà dans leur vie avant, par la famille, par des engagements, par éventuellement des engagements légers, d'autres centres d'intérêt, ils vont plus naturellement, plus facilement se repositionner sur ces zones d'intérêt et en redéployant différemment les temps, les espaces, etc. Donc c'est beaucoup plus facile pour ceux qui ont connu la vie associative avant. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est ceux qui ne l'ont pas connu du tout. Et donc à la fois, je dis souvent, c'est une forme amusante, c'est à la fois, il y en a 75% qui ne font pas grand-chose et qui tournent autour de la piscine sur le logis, je ne sers à rien, je ne sers à rien, je ne sers à rien, et qui ne plongent pas. Ce qui est tout à fait essentiel sur le choix de l'engagement associatif, bénévole ou électif, parce que quand on est conseiller municipal, c'est de même nature. Bon, c'est de dire, voilà, finalement, qu'est-ce qui va me brancher comme intérêt, etc. Alors, intérêt en tant que tel, et intérêt pour faire donner sens à ma vie, pour avoir un sentiment d'utilité. Bon, il faut qu'il trouve du sens. On dit souvent, le bénévolat, c'est la façon de gérer à la fois le sens, l'utilité, et puis j'y trouve plaisir. C'est pas du tout de l'abnégation, etc. Si c'est uniquement de la souffrance, faut surtout pas. Il faut qu'ils arrivent à trouver cette combinaison, et là, il n'y a pas de règle, justement. Nous, on est là pour les aider.
Est-ce que, justement, une structure comme France Bénévolat démarche aujourd'hui les entreprises, par exemple, pour aller faire de la sensibilisation aux futurs retraités? Est-ce que vous faites ça?
Oui, un peu. Oui. On a ce qu'on appelle des relais du bénévolat en entreprise. Les entreprises anglo-saxonnes, c'est tout à fait banal. En France, c'est encore beaucoup plus limité, mais ça se développe. Peuvent aussi trouver bien d'encourager leurs salariés à avoir des engagements. Ça relevient d'affaires privées. Mais pas forcément à 50 ans, à 20 ans, à 25 ans. Ça peut être aussi leur intérêt, etc. Et quand les gens viennent chez nous, c'est leur montrer l'ensemble du spectre associatif, leur faire découvrir qu'il y a des associations absolument extraordinaires, petites, qui font des choses extraordinaires et qui peuvent rencontrer tout à fait leur intérêt à eux.
En quelque sorte, on a bouclé la boucle. La première question que je vous posais, c'était sur cette crainte de l'abîme, du rien. Et vous, la réponse que vous proposez, peut-être vous êtes un peu jugé parti dans cette affaire, mais c'est tout de même que les futurs retraités s'engagent dans une action associative.
Aient un sentiment de servir à quelque chose. Alors, il y a un autre volet qu'on n'a pas abordé aussi, c'est quel regard la société, avec un grand S, a sur ses retraités. Et si la société n'est pas capable de leur dire, nous avons besoin de vous pour assurer des solidarités locales. Et les retraités, la période où ils sont en pleine forme, c'est aussi une énorme ressource humaine. Et si j'ai la chance d'avoir une retraite payée par des gens qui travaillent, peut-être j'ai aussi quelques devoirs à l'égard de la solidarité locale. Et je pense que ce pacte républicain, qui a été essentiellement monétaire, à partir du 19e siècle, doit être monétaire et qualitatif, et en particulier local. Et quand on tombe sur local, on tombe sur de la solidarité directe, sur l'engagement associatif, sur des mandats électifs, etc. Voilà. Et en même temps, c'est l'intérêt des retraités, puisqu'ils ont un sentiment d'utilité.
Voilà. Dominique Thierry, merci de votre présence aujourd'hui dans le studio de Microscopie. Je rappelle le titre de votre ouvrage, L'entrée dans la retraite, nouveau départ ou mort sociale, aux éditions Liaison Sociale, des références que de toute façon vous pourrez retrouver sur le site de l'émission. L'adresse électronique de France Bénévolat, c'est
www.francebénévolat.org.
Merci de votre attention. Nous attendons évidemment, comme d'habitude, vos réactions sur notre adresse microscopie@rfi.fr. Bonne semaine à tous. Au revoir.
Liberté.
Repos.
Se trouver ou se retrouver.
Bonheur.
Bonheur ?
Ah oui.
On va le mettre en haut, en frontant. Vous êtes debout ?
Ah ouais.
Loisir. Bouger.
La fin des contraintes s'imposer.
Du temps pour soi.
Voyager.
Se cultiver.
Moi, ce serait vie à deux.
Gérer le temps.
Moi, je dirais choix.
Isolement.
Nature.
Plus tristement, j'irai dernière ligne droite.
J'aurais soit espoir ou espérance.
Santé.
Bénévolat.
Disponibilité.
Déracinement.
Déguster.
Non, mais on mange vite quand on travaille. On n'a pas le temps.
Rencontre des autres.
Aventure.
Grâce patinée. Nouvelle vie.
Je passe.
Dernier mot, Serge, vivre.
C'est votre dernier mot,
c'est mon dernier mot.
La société, c'est le microscope.